Bonjour, donc ce forum porte sur la France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et sa tentative de raviver les illusions électorales, notamment en vue des élections présidentielles de 2027. Alors comme vous le savez, dimanche 3 mai, Mélenchon a annoncé sa candidature sur TF1. Bon, c'est pas une surprise. C'est le premier à le faire et il annonce la couleur. Si on veut éviter l'arrivée au pouvoir de Bardella ou de Le Pen en 2027, il faudrait voter pour lui dès le premier tour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il demande au parti de gauche de se mettre derrière lui, de renoncer à se présenter. Avec l'argument qu'il serait de toute façon le seul à pouvoir accéder au second tour. Et une partie des politiciens de gauche et Philippe Poutou, dirigeant du NPA anticapitaliste, ont déjà envisagé publiquement de soutenir Mélenchon, c'est-à-dire de ne pas se présenter. Au contraire, nous, eh bien, nous allons présenter Nathalie Arthaud dans ces élections pour lever le drapeau du camp des travailleurs, un drapeau indépendant contre tous les candidats de la bourgeoisie. Et c'est là-dessus que je voudrais m'expliquer. Je voudrais discuter du fait que, pour préparer les combats qui nous attendent, pour un jour renverser ce système capitaliste qui engendre une troisième guerre mondiale et bien d'autres catastrophes, eh bien le vote LFI, il ne fait pas avancer le camp des travailleurs, même un tout petit peu. Et au contraire, il contribue à les éloigner de la conscience de classe qui leur serait pourtant tellement nécessaire. Alors sans aucun doute, LFI et Mélenchon bénéficient d'un certain crédit dans les milieux populaires, contrairement aux autres partis de gauche. Leurs succès électoraux, les maires qu'ils ont eu comme élus cette année, le montrent bien. Peut-être d'ailleurs y a-t-il dans cette assemblée des électeurs de LFI. Et ce crédit, ils le doivent à des positions plus radicales, entre guillemets, que le reste de la gauche actuelle. Mélenchon peut ainsi dénoncer le capitalisme, parler du capital, des profits, ou dénoncer vigoureusement ce qu'il appelle l'oligarchie. Il préfère parler de ça que de parler du grand patronat. Les militants de LFI, ils se sont aussi retrouvés un certain nombre de fois aux côtés de travailleurs dans des grèves ou face aux injustices qu'ils subissent. LFI a présenté aux élections législatives Rachel Keke, une femme de ménage dans des hôtels qui avait mené une grève longue. Et puis certains des élus LFI, comme Bali Bakayoko, devenu maire de Saint-Denis, on fait des gestes symboliques les plaçant du côté des couches populaires, comme l'arrêté anti-expulsion locative que ce dernier a pris récemment. Et il a fait aussi face, Bali Bakayoko, à une campagne raciste contre lui et il a tenu tête. Et puis surtout, LFI a dénoncé avec force, sans céder aux pressions, la guerre menée par l'État israélien contre le peuple palestinien. Évidemment, nous, face aux campagnes racistes ou aux mesures répressives dont étaient victimes des militants de LFI, nous avons affirmé notre solidarité. Mais le problème, c'est à quoi LFI va utiliser la confiance, la popularité qui résulte de ses positions courageuses. Au-delà de ses positions, quelle est la politique que propose LFI à ceux qui l'écoutent? Parce que si on résume, ce qui ressort pour l'instant, c'est remporter la présidentielle pour faire adopter une nouvelle constitution et une nouvelle république.
Alors, pour continuer, je voudrais quand même replacer cette élection et ce qui se passe au niveau politicien dans le contexte plus général quand même. Parce que là, c'est celui d'une société, d'un monde dont la crise s'aggrave, la guerre qui se généralise dans toute une partie de la planète et les classes populaires qui le payent de plus en plus cher. Et on voit... C'est pas lié même aux étiquettes politiques. D'ailleurs, Mélenchon l'a dit lui-même sur les plateaux de télé lors de son annonce. Il a dit que, y compris, il a parlé du capitalisme à ce sujet-là. Donc il le sait. Et alors qu'un certain nombre de travailleurs font le lien aussi, font bien le lien entre ces désastres et le capitalisme, ben, LFI, ce dont il les fait quand même rêver, c'est d'un vote. Voilà, d'un vote qui permette quand même d'améliorer le capitalisme. Un capitalisme, on pourrait dire, régulé à visage plus humain. Et c'est là qu'on peut dire qu'il rabaisse déjà la conscience de ses travailleurs en désignant Macron comme le principal responsable, finalement, des maux, et en disant qu'il suffirait de changer de président, et alors on pourrait décider de taxer les plus riches, mettre des règles au capitalisme. Et Mélenchon proposait de faire ça par un vote, par un changement à la tête d'une institution, d'un point de vue franco-français. Où est le décalage par rapport à la situation ? Alors il est vrai que Mélenchon, quand il défend ça, il peut quand même compter sur le discrédit de tous les autres partis, de gauche, de droite, qui eux aussi avaient fait tout leur lot, avaient fait tout un tas de promesses. On peut parler du socialiste Hollande qui avait juré « mon ennemi c'est la finance » avant de le servir mieux que tous. Donc en s'affirmant en rupture avec le PS et tous les anciens partis, LFI tente, par-dessus tout ça, de raviver la flamme de l'espoir à un bon gouvernement. C'est pas la première tentative de ce genre dans les dernières années. Après la crise de 2008-2009, des mouvements politiques avaient comme ça émergé dans des manifestations contre l'austérité, en Grèce, en Espagne, dans d'autres pays. En Grèce, le mouvement Syriza est arrivé au pouvoir en 2015, après avoir été du côté de ceux qui manifestaient. Il s'est retrouvé à gérer un État étranglé par les financiers et pris dans une spirale d'endettement. Comment sortir de ça ? C'est à la population qu'il a fait payer tout le poids de la dette. Il n'a pas fait le choix de s'attaquer vraiment à la bourgeoisie. Est-ce qu'il en avait les moyens ? En tout cas, il n'a pas fait ce choix-là. Et quand il y a eu un référendum sur la réforme des retraites en Grèce, elle a été rejetée. Certes, la réforme a été rejetée à 60%. Ils pensaient qu'en faisant un référendum, ça ferait peur aux institutions européennes et aux banques. Mais non, pas du tout, ça ne suffit pas du tout. Donc le gouvernement d'Alexis Tsipras, de Syriza, il a appliqué sa réforme. Voilà. Et ça a fait baisser toute une partie des retraites. C'est là que ce mouvement de la gauche, il a perdu sa popularité. Et c'est la droite qui est revenue aujourd'hui au pouvoir en Grèce. En Espagne, Podemos, ce parti s'est créé sur les restes des assemblées des indignés, des mouvements qu'il y avait en 2011-2012. Donc il avait tout un programme, de changer pareil la forme du pouvoir politique, des mesures qui apparaissaient comme radicales, mais dans le cadre des institutions. Et donc finalement, pour gagner, pour prendre sa place, il a dû gouverner avec le Parti Socialiste. Jusqu'en 2023, il a eu des ministres. Et il a renoncé à l'essentiel de son programme. Et comme vous savez, peut-être ou pas, Podemos, aujourd'hui, on entend beaucoup moins parler. Ses scores électoraux, ses effectifs militants ont chuté. Son leader, Pablo Iglesias, s'est retiré de la vie politique. Alors, ça n'empêche pas ses successeurs qui sont restés à Podemos d'essayer de trouver de nouvelles combinaisons politiciennes pour ressusciter un espoir. Mais le problème, c'est que pendant ce temps, la situation, elle continue de se dégrader. Et puis, l'extrême droite, elle progresse et elle profite des déceptions de la gauche. Que ce soit en Grèce, en Espagne ou ailleurs, les classes populaires, elles ont vu leur niveau de vie se dégrader. Ça continue aujourd'hui parce que c'est pas dans les urnes que la lutte des classes, elle se joue. Quoi que les politiciens disent pour obtenir des votes, la situation générale de la crise du capitalisme et d'extension de la guerre, elle pèse de plus en plus sur le monde du travail. Et en fait, de l'Espagne, gouvernée par la gauche, à l'Angleterre, en passant par l'Allemagne et la France, partout, les dépenses militaires, elles augmentent de plus en plus vite. Alors tout ce que je viens de dire, ça n'empêche pas Mélenchon de suivre le même chemin que ses anciens alliés de Grèce et d'Espagne. Il a l'ambition d'exercer le pouvoir au plus haut niveau, dans le cadre de ce système qu'il connaît bien, il ne s'en cache pas. Donc derrière ces discours radicaux pour attirer les électeurs, en fait, il y a quoi ? Il y a un homme prêt à servir les intérêts de la bourgeoisie. Et il sait que c'est une condition indispensable pour pouvoir rester au pouvoir en régime capitaliste. Alors, le Mélenchon, son parcours en dit long aussi. Avant d'être, il a été longtemps socialiste, mais avant, à ses débuts, il a milité dans un des groupes trotskistes de l'époque, l'OCI, jusqu'en 1976. Donc il sait, il le dit d'ailleurs, je connais, j'ai entendu parler, le marxisme, je connais la lutte des classes. Mais il a fait un autre choix. Il est rentré au Parti Socialiste, à la fin des années 70, au moment où celui-ci s'apprêtait à accéder au pouvoir, au gouvernement avec Mitterrand. Et qui était Mitterrand, faut quand même, rappelons-le, c'était un homme un haut fonctionnaire bien connu qui avait commencé sa carrière politique dans le gouvernement de Pétain, avant de devenir ministre de la 4e République, connu comme fervent colonialiste, l'Algérie française, etc. Et les socialistes, Mélenchon inclus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont refait une virginité à cet homme d'État bien connu, qui arrivait à la tête du PS. Et Mitterrand, avant d'être élu en 1981, qu'est-ce qu'il disait ? Bah, un peu comme Mélenchon. La nécessaire rupture avec le capitalisme, un programme commun avec des mesures bien plus radicales que ce qu'on peut trouver dans l'avenir en commun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah oui, une fois élu, à partir de 1981, alors que beaucoup dans les classes populaires y avaient mis de grands espoirs, ça faisait longtemps que la gauche n'avait pas été au gouvernement, et bien Mitterrand, bah, il a fait finalement, dans une période de crise aussi, moindre qu'aujourd'hui peut-être, mais il a fait tout ce dont le grand patronat avait besoin, au nom de la crise et de la rigueur. Pour les plus anciens, ben, le blocage des salaires en 1982, des dizaines de milliers de licenciements dans la sidérurgie qui avaient été nationalisés et qui a ensuite été reprivatisé, etc. Pendant que les travailleurs en prenaient plein la tête, de la part de ce gouvernement, il y avait dirigé par le Parti Socialiste, mais avec des ministres du PC aussi, ben Mélenchon y montait dans l'appareil du PS. Il n'était pas spectateur, il était responsable de la Fédération Socialiste de l'Essonne et il est devenu sénateur à partir de 86. Plus tard, de 2000 à 2002, il est même rentré dans un gouvernement de Jospin comme ministre délégué à l'enseignement professionnel. Il sortait, c'était l'époque où on sortait juste de dégraisser le mammouth, que disait le ministre de l'Éducation nationale qui avait précédé. Voilà. Donc, il a assumé ça, la suite de cette politique-là. Et puis Jospin, il faut le dire, c'était des privatisations sans précédent. Les 35 heures, la flexibilité du temps de travail, son annualisation. Et dans le privé, les plans de licenciement qui se multipliaient. C'est l'époque de Danone, de Moulinex, tout un tas de boîtes, des milliers de licenciements. Et face auquel, bah, le gouvernement de gauche, qu'est-ce qu'il a dit ? On ne peut rien faire, ce n'est pas notre rôle, c'est l'économie, c'est le privé. Donc voilà où était, globalement, de 1982 à 2002, voilà où était Mélenchon. C'est exactement cette politique abjecte à laquelle il a participé, dont il se réclame encore aujourd'hui, d'ailleurs, puisqu'il se réclame de Mitterrand, qui a jeté une partie des classes populaires dans le dégoût de la politique et dans l'abstention, et une autre dans les bras du FN puis du RN. Alors on devrait faire confiance à cet homme pour combattre l'extrême droite ? Alors bien entendu, à l'époque, dans les années 2000, ni Mélenchon ni Jospin n'ont reconnu leur responsabilité dans la montée de l'extrême droite. Lorsque, pour la première fois, au présidentiel de 2002, la gauche a perdu tellement de millions de voix qu'elle n'a même pas passé le premier tour, ça a été une opération politicienne pour cacher les raisons et dire « Oulala, c'est le fascisme qui menace. En fait, ce qu'il faut faire, c'est soutenir Chirac, qui se retrouvait en face de Le Pen au second tour. » L'homme de droite, Chirac. Et bien Arlette, à l'époque, elle était la seule à dénoncer l'arnaque. Elle a expliqué que, oui, Le Pen était le pire ennemi des travailleurs, mais il serait bien illusoire de penser que Chirac nous en protégerait. Et d'ailleurs, on peut voir avec le temps, il ne nous en a pas protégé. Ça n'a cessé de monter, les gouvernements de droite sous Chirac, ils ont appliqué des mesures dont l'extrême droite pouvait se revendiquer. Alors après, après 2002, Chirac élu avec les voix de la droite, de la gauche et d'une partie de l'extrême gauche. Voilà, et donc c'est des attaques à ce titre-là. La gauche, elle est discréditée pour longtemps. Donc, qu'a fait Mélenchon ? Eh bien, il a cherché à exploiter le créneau des déçus du PS, des déçus de la gauche. C'est là qu'en 2008, ils fondent le Parti de gauche, dans le cadre d'une alliance avec le Parti communiste. Ça s'appelait le Front de gauche. Pourquoi il a fait ça ? Ben, il avait, à l'époque, il est sorti du PS, mais sans vraiment avoir une base militante. Donc, ces militants communistes, en fait, du PCF, ils ont fait campagne pour lui. Ils ont fondé des espoirs. Et certains ont même fini par quitter leur parti pour rejoindre le Parti de gauche. Qu'a fait Mélenchon ? Eh bien, à partir de 2016, quand ça a commencé à monter, ben, il a refondé son mouvement en l'appelant LFI, la France Insoumise, en vue de l'élection présidentielle de 2017. Cette fois, sans le PC, dont il n'avait plus besoin. Voilà. Et je veux revenir quand même sur ce mot, ce nom, la France Insoumise. Ce n'est pas un hasard, la France Insoumise. Parce que nous, c'est les travailleurs de tous les pays contre leurs exploiteurs. Ce n'est pas les travailleurs français ou la France qui mélange tout. Et on voit que Mélenchon, il ne loupe pas une occasion de renforcer l'idée nationale, l'idée du peuple français qui aurait un destin à part. Il se revendique de Gaulle ou de Mitterrand selon les moments. Et puis il entretient la mythologie qu'il pourrait y avoir de nouveau une France forte et non alignée avec les États-Unis. Eh bien, le seul fait que Mélenchon et LFI défendent cette politique nationaliste suffit à annuler tout ce qu'il peut y avoir de juste dans le reste de ses propos. parce que ça noie la conscience de classe. Quand ces meetings se terminent par la Marseillaise, le point levé, ça veut dire quoi? Ils mélangent consciemment un symbole du mouvement ouvrier, le point levé, avec le chant national de la bourgeoisie française et des colonies. Rappelons que dans l'histoire, il y a eu pas mal de démagogues, d'hommes, de tribuns qui pouvaient être des beaux parleurs, avoir des propos très radicaux, voire même utiliser un langage anticapitaliste. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'ils en font, et ça les empêche pas parfois d'emmener la classe ouvrière dans le mur. Donc c'est pas au jargon marxiste qu'on peut juger le politicien, mais quelles perspectives, quels intérêts de classe il suit. Eh ben, depuis des années, depuis les dernières années là, ce qu'on constate bien clairement, c'est que LFI a mis les travailleurs qu'il suivait à la remorque de partis bourgeois, à la remorque de ces intérêts-là. Certes, de façon digne, humaine, généreuse, avec des raisons qui peuvent être touchées et se comprendre, mais derrière la bourgeoisie. Lors des élections législatives anticipées de 2024, quelle était la politique de LFI? S'allier avec toute la gauche social-démocrate qu'elle critique dans le nouveau Front populaire, NFP, pour avoir quelques députés. Et au final, c'était une grande alliance avec tout le monde politique de gauche, du centre, de la droite, qui était c'est la partie de la droite qui était devenue macroniste, hein, Borne, Darmanin. Et puis l'alliance avec Hollande. Il a appelé les électeurs de gauche à voter pour Hollande, qui les avait attaqués au gouvernement juste avant. Tout cela, bien sûr, au nom de la lutte contre le RN. Alors évidemment, pour 2027, ben, on va nous refaire le coup. Alors cette fois, ce qui change, c'est que le risque est bien réel, hein, que Bardella ou Le Pen arrive à la présidence. Mais à quoi assiste-t-on? Après l'union de la gauche de Mitterrand, la gauche plurielle de Jospin, la NUPES, le NFP, ce sera la NAP, la Nouvelle Alliance Populaire, et puis après le coup de l'unité de la gauche, dans une deuxième étape, ce sera peut-être au deuxième tour le Front Républicain, avec la droite républicaine, entre guillemets, contre le RN. On voit quand même que dans toutes ces combinaisons, toutes ces combines politiciennes, les travailleurs, qu'est-ce qu'ils y gagnent? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils se retrouvent à avoir élu à chaque fois des ennemis en croyant que c'était le moins pire. Ou alors, si c'était pas ça qu'ils ont choisi, à se résigner pour 5 ans, puisqu'il n'y a que le vote et les combinaisons électorales comme issue. Donc du coup, c'est la résignation. Ils subissent recul sur recul. Le paysage politique s'est droitisé de plus en plus. Les concessions exigées aux travailleurs sont toujours plus grandes. Et les gouvernements appliquent de plus en plus la politique de l'extrême droite. À chaque fois, au nom du moins pire, la défense de notre démocratie, de la République. Donc au milieu de cette droitisation générale, certes, les discours LFI peuvent apparaître comme radicaux, anti-système. Mais comme on dit, attention, au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Alors, c'est vrai, le positionnement de LFI contre la guerre de l'État israélien contre le peuple palestinien, qui lui a valu les foudres de la quasi-totalité des médias et du monde politique, des gardes à vue pour certains de ses militants. C'est vrai, tout ça, ça pourrait le placer du côté des opprimés. Et puis la campagne hostile et les mesures répressives qui ont visé LFI sur le sujet de l'Israël-Palestine. C'est pas que LFI que ça vise tous les travailleurs, tous les gens dans les classes populaires qui sont horrifiés par cette guerre à Gaza et qui peut-être un jour voudraient contester la politique de l'impérialisme. Donc de ce point de vue-là, évidemment, nous du point de vue de ces attaques et de ces mesures répressives, des gardes à vue, nous on est solidaires de LFI. Mais pour quelle politique ils font tout ça? Parce que quand LFI se fait la championne du combat pour le peuple palestinien, oui, ça augmente sa popularité dans certains milieux, immigrés, musulmans, des travailleurs, peut-être plus largement. Mais tout ce que LFI a à leur dire, c'est quoi? Faites confiance, essayons d'avoir des meilleures institutions internationales. Faites confiance aux députés français et européens. Mais tout ça, qu'est-ce que ça peut changer? Qu'est-ce que ça peut peser sur Netanyahou, ces choses-là? Par contre, si le Moyen-Orient il est à feu et à sang aujourd'hui, c'est pas qu'une histoire de Netanyahou. Il y a aussi notre propre classe capitaliste. Total, il est pas pour rien dans ce qui se passe au Moyen-Orient, les intérêts pétroliers des troupes françaises qui sont au Moyen-Orient. Donc là, il y aurait des choses à dire. Au lieu de plaider auprès de l'ONU, c'est au système capitaliste lui-même qui nous exploite ici qu'il s'agit de s'attaquer. Finalement, c'est un bout du même grand patronat. Mais ça, LFI, il se garde bien d'y préparer ses électeurs. Parce que ce dont il a besoin, ce mouvement, c'est d'électeurs, de gens qui vont voter pour lui, l'amener à la présidence. C'est pas de travailleurs qui combattent et qui sentent leur force face au patronat. D'ailleurs, il ne s'adresse jamais aux travailleurs vraiment en tant qu'une classe unie, qui se réunit, nous ce qu'on pense, unie par-delà les entreprises, les différences de statut, d'origine, de croyance. Au contraire, il fait plutôt le choix, un certain nombre de fois, ce n'est pas un hasard, même si ce n'est pas tout le temps. Quand il parle des travailleurs du Maghreb ou d'Afrique, ce n'est pas trop en tant que travailleurs exploités que les filles s'adressent à eux, mais plutôt en tant que minorité opprimée, du fait de l'origine, du fait de la couleur de peau, de la religion. C'est plutôt là-dessus qu'ils tablent, même s'ils sont capables de dire le contraire. Je voudrais donner un exemple qui fait réfléchir. Quand Mélenchon a dit dans un débat il y a un mois, que vous trouvez sur YouTube, qui s'appelle « Le capitalisme peut-il avoir une fin ?» C'est quand même rigolo de la part de l'homme que je vous ai décrit. Mélenchon a dit « Alors, où est le point de passage par rapport au capitalisme ? Par quel chemin ?» Parce que si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme en France, bon, vous allez attendre un moment, hein, parce que ça n'aura pas lieu. Plus tard, on ne peut pas simplement compter sur les barricades et les kilomètres de mobilisation avec des drapeaux rouges, parce que ça, c'est du folklore. Voilà ce qu'il est capable de dire Mélenchon. En fait, il s'appuie sur la démoralisation, il s'appuie sur la division entre travailleurs, sur le fait que beaucoup ne croient pas, c'est vrai, aujourd'hui, pour l'instant, à la possibilité de s'unir ensemble dans des luttes contre le patronat. Mélenchon, qui a connu les idées marxistes, bah, il est travesti dans ce qu'il fait. Même la révolution dont il parle, quand il rajoute « révolution citoyenne », qu'est-ce que ça veut dire? Il sait bien que c'est pas ça la révolution, une révolution sociale. Parce qu'une révolution sociale, ce serait un affrontement, y compris armé, un affrontement des travailleurs, de l'ensemble des travailleurs, contre la bourgeoisie et de son appareil d'État. Et ça, c'est pas ça dont il parle. Lui, il parle de la victoire électorale de LFI et d'une 6e République. Alors bien sûr, sur la 6e République, personne ne va regretter la 5e ni la 4e. Mais laisser croire qu'il suffit de changer de constitution pour donner le pouvoir au peuple, je le cite, c'est de l'enfumage. Parce que la constitution, c'est un bout de papier qui contient déjà pas mal de choses. Regardez le droit au logement, sur l'emploi, égalité, fraternité. Mais ça reste des belles paroles. Parce que le vrai pouvoir, il n'est pas là. C'est le grand capital. Parce que ce qui garantit à la bourgeoisie, aux financiers, aux gros actionnaires, leur domination sociale et politique, c'est pas la constitution, c'est qui possèdent, c'est la propriété privée de leurs usines, de leurs réseaux de transport, leurs banques. Et tout ça, tant qu'ils l'ont, et l'appareil d'État, ses hauts fonctionnaires, ses cadres de l'armée, de la police, ses juges, et ils demeurent sous le contrôle de la grande bourgeoisie. Donc, sauf à renverser l'État bourgeois, parce que ce serait l'intervention directe des classes populaires, des travailleurs, et ce seront les mêmes qui continueront à diriger en coulisses avec une 5e, 6e, 7e République. C'est la même chose avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça veut dire, il parle de ça aussi, s'inspirant sans doute des Gilets jaunes. Un référendum suscité par une pétition de centaines de milliers d'électeurs. Alors déjà, les électeurs, on reste dans un cadre où c'est les électeurs. Mais alors les travailleurs, les nombreux travailleurs immigrés qui n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas leur mot à dire. Et puis, quel est le but qu'ils lui donnent? Révoquer un élu. Le président de la République, modifier la Constitution, adopter ou abroger une loi. Mais à ce qu'on sache, Mélenchon, il n'a pas envisagé que le RIC révoque un général d'armée, ou encore moins les grands patrons, ou les actionnaires. Ce qui d'ailleurs ne se passerait pas comme ça. Les campagnes LFI, elles alimentent l'illusion, du coup, qu'il pourrait y avoir une révolution qui serait ni en faveur des exploités, ni en faveur des exploiteurs. Mais de l'intérêt général, du peuple, du genre humain même qui dit. Mais un gouvernement qui n'aurait pas choisi entre les classes sociales, qu'est-ce qu'il va faire une fois au pouvoir? Je vous ai donné des exemples. Il sera condamné à se mettre du côté de la bourgeoisie. Mais Mélenchon, c'est pas qu'il n'a pas choisi. Je voudrais donner quelques arguments là-dessus. Dans le contexte de la guerre, il a montré qu'il a choisi son camp, celui de la bourgeoisie française, impérialiste. Alors c'est vrai qu'il parle de se retirer de l'OTAN. C'est peut-être ça qui peut paraître radical. Mais il faut savoir qu'avant Sarkozy, la France, elle n'était pas dans la direction de l'OTAN. Donc ce qu'il propose exactement, c'est juste un retour à cette situation. Mais d'ailleurs, est-ce que être hors de l'OTAN, ça rendrait l'impérialisme français moins rapace? On peut se souvenir de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine. Ils n'ont pas eu besoin de l'OTAN pour faire des massacres. Et puis, dans ces tons anti-américains, Mélenchon propose une politique, en fait, une alternative pour la bourgeoisie française. Par rapport à la guerre en Ukraine depuis 2022, LFI a justifié l'intervention impérialiste contre la Russie, même s'il réclame plus de diplomatie. En 2023, pour augmenter, quand le gouvernement a augmenté les dépenses militaires, oui, LFI n'a pas voté pour, il n'était pas le seul d'ailleurs, mais il a dit que c'était pas assez ambitieux, c'est pour ça qu'il votait pas pour. Et puis il a fait un contre-projet de loi militaire, dans laquelle il présente l'armée comme étant au service de la population et au service de ses ressortissants à l'étranger. Et par exemple, quand il parle de l'opération Sagittaire au Soudan, l'opération militaire, il dit que ça aurait vocation à protéger les ressortissants français à l'étranger. Voilà comment il parle de l'impérialisme français. Et puis, en janvier, il a visité une usine de Rafale, fier d'avoir rencontré et discuté avec le patron d'Assaut, et de le féliciter que le passage en cours à la cadence de 4 avions Rafale par mois, c'est bien. Et enfin, le 11 mars dernier, le LFI était aussi présente à la réunion du chef d'état-major et du ministre de la Défense, qui avait convoqué les principaux partis représentés au Parlement. Il aurait pu refuser d'y aller. Mais ces réunions, elles servent à vérifier le respect du secret des décisions. Des décisions prises par l'état-major. Ça servira pour la suite. Et puis on remarque que Mélenchon, il a approuvé la présence des navires militaires français à Chypre. Certes, il dit le détroit d'Ormuz, c'est trop, mais à Chypre, c'est bon. Et les troupes au Liban, il faudrait réarmer le régime libanais, qui est un ancien protectorat de l'impérialisme français. Et tous ces militaires dont il défend la présence, même s'il propose une autre façon de le faire, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est une partie, aujourd'hui même, de la coalition derrière les États-Unis qui attaque l'Iran, le peuple palestinien, le Hezbollah et tous ceux qui s'opposent à l'impérialisme dans la région. Alors, un parti qui s'opposerait vraiment à la guerre impérialiste et à ce qui se passe au Moyen-Orient, bah, la première chose qu'il dirait, c'est ce que nous avons fait dans nos écrits, nos manifestations, c'est de dire troupes françaises hors du Moyen-Orient. Alors certes, avec un ton humanitaire et diplomatique, qui détonne par rapport aux idées nauséabondes actuelles, à Trump, à l'extrême droite qui monte, oui, d'une autre façon, mais Mélenchon, quand même, il veut être président et il se prépare ouvertement à être le chef d'une armée impérialiste. Pour conclure, je dirais que LFI, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'est que la dernière version de la longue série de partis qui ont trompé les travailleurs tout en ayant des discours radicaux. Ils tentent de se donner un ton anticapitaliste, oui, ils se démarquent des autres et des idées nauséabondes actuelles, oui, c'est vrai, mais il le fait en sachant bien que rien ne se concrétisera s'il arrive au pouvoir. Et il y a aussi un autre cas qu'il faut envisager, qui s'est souvent produit dans l'histoire du mouvement ouvrier. Quand la guerre se précipite, quand il faut enrégimenter la population pour la guerre, comme en 1914, les tribuns de gauche, ils peuvent servir à canaliser, à mettre au pas les ouvriers. Et quand il y a une explosion de lutte sociale, ils peuvent servir à canaliser les luttes et à sauver la mise à la bourgeoisie, comme ça a été le cas en 1936. Voilà donc à quoi peut conduire le fait de se retrouver derrière LFI, à côté de lui ou dans d'autres combinaisons à la gauche de la gauche. Alors certes, les combinaisons, les fronts, les alliances, ça peut faire espérer des scores électoraux meilleurs, mais pendant que les scores montent, les travailleurs reculent. Et cette politique désarme, elle fait reculer la conscience de classe de ceux qui la suivent, au moment justement où ils vont en avoir le plus besoin. Donc nous, ce qu'on propose à ceux qui veulent se débarrasser de ce système profondément injuste et mortifère, quel capitalisme, c'est de s'atteler avec nous à défendre le camp des travailleurs, un parti pour ça, et de défendre franchement les idées communistes révolutionnaires.
Donc, alors, ceux qui souhaitent intervenir, poser des questions, c'est maintenant. Je précise que ceux qui interviennent au nom d'une organisation, faut vous présenter, et puis c'est une seule intervention par organisation. Et la parole, elle est pour l'ensemble des participants. Ouais. Tu peux t'approcher un peu.
Merci camarades pour la présentation sur LFI. Je suis Hino dans la région parisienne et je suis un militant de la électro-trotskiste. Je pense qu'il faut partir de ce que tu as dit tout à l'heure, camarade. Qu'est-ce qui va faire avancer le camp des travailleurs, concrètement ? Là, la situation dans laquelle on est, pour l'ensemble de la classe ouvrière et des opprimés, c'est que dans un an, le RN est aux portes des pouvoirs. Et pour l'ensemble des opprimés et des travailleurs,
Il faut chercher une solution face à ça. Et la seule solution crédible actuellement, c'est LFI. Ce n'est pas les trotskistes, ce n'est pas les révolutionnaires. Et ça, c'est un vrai problème pour nous. Je pense qu'il faut déjà partir de cette base-là. Pourquoi ? Pourquoi la gauche, les révolutionnaires ne sont pas crédibles ? Parce que déjà, elle est divisée. Moi, je ne suis pas satisfait du tout, camarade, qu'on va repartir avec trois candidatures révolutionnaires, Lutte ouvrière, NPAR, RP. Alors, on verra, j'espère bien. Mais NPAR fait une lettre à LO pour faire une candidature commune, LO refuse, et les deux font semblant que RP n'existe pas, et RP va se présenter encore une fois indépendamment. Moi, je suis cheminot. Désolé, camarade. Les collègues chez moi, ils ne voient pas la différence entre NPAR, LO et RP. Et ça, c'est la réalité. Maintenant, la question pour nous, c'est comment on va casser les illusions dans la France insoumise au-delà de nos petits camps de révolutionnaires. Pourquoi Mélenchon et la LFI, ils ont ce pouvoir, cette place-là dans la gauche? C'est parce qu'eux, ils se représentent comme des défenseurs sur la Palestine, sur les jeunes d'origine immigrée, sur les musulmans, etc. etc., etc. Il faut qu'on tape, pour pouvoir avoir un levier contre la France insoumise, il faut qu'on tape sur leurs contradictions. Et nous, ce qu'on propose, et je vais terminer, c'est que c'est ça qu'on devrait mettre en avant. Pour montrer qu'en fait, c'est que les trotskistes qui ont la capacité de faire avancer le camp des travailleurs. Nous, ce qu'on propose, j'ai quatre petits points, je termine, c'est de mettre en avant face au mélenchonisme. Ok, vous présentez comme un défenseur des opprimés, donc nous, on est prêt à voter pour vous. C'est un vote conditionnel. Si vous luttez concrètement pour la rupture d'alliance stratégique avec les États-Unis, défense de la Palestine, la fermeture des bases militaires françaises à l'étranger, y compris les colonies, aucune alliance avec le PS et les Verts, et expropriation sans compensation de tous les trucs du CAC 40. Bien sûr, Mélenchon ne va jamais accepter ça. Dans le camp des LFI, il y a une majorité qui serait pour ça. C'est comme ça qu'on peut essayer de diviser et montrer que c'est que les révolutionnaires qui peuvent faire avancer ça. Pour ça, il faut être unifié à la base.
Alors, d'autres interventions, questions.
Moi, je voudrais faire une remarque, c'est qu'au sein de LFI, certains qui ont critiqué l'attitude de Mélenchon, entre autres Clémentine Autain, et aujourd'hui, ils ont rejoint le PS. Voilà. Voilà à quoi ils vont nous appeler aujourd'hui.
Vas-y, tu peux aller.
Je peux me lever avec plaisir. C'est bon là ? Ouais. Moi j'avais juste une mini-question sur... Tout à l'heure t'as dit le grand patronat et l'oligarchie. Enfin t'as dit que Mélenchon il disait oligarchie et qu'il disait pas grand patronat et que c'était pas un hasard. Et du coup j'ai pas compris pourquoi c'était pas un hasard.
Alors surtout en fait j'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit le camarade de la Ligue Trotskiste de France qui a un peu fait le... Un autre camarade qui a fait le même speech à Révolution permanente lors du débat. Bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? C'est qu'il y a bien une solution, c'est que déjà, au point de vue de nos idéologies, on est certes communiste, mais par exemple, on n'est pas d'accord sur la Palestine. On ne défend pas les mêmes perspectives au départ. Donc déjà, on ne va pas se mettre d'accord sur « Ah ben, on va faire des concessions », alors qu'aujourd'hui, il y a un recul de la société, il faut défendre les idées communistes révolutionnaires. Et c'est ça, nous, qu'on attend. Et puis, défendre derrière Mélenchon en disant « Ah bah, faut mettre ces quatre points, même s'il n'y a pas à les accepter », c'est se mettre au rebord des réformistes. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui va arranger les choses. Et puis, faire des alliances pour faire 1,5% aux élections, c'est pas non plus ça qui va changer quelque chose. Ce qui va changer les choses, c'est être dans les entreprises, de dire qu'il y a une autre perspective révolutionnaire, que c'est pas dans les débats... des élections législatives présidentielles, mais on peut s'en servir pour faire entendre cette voix-là. Et puis aussi, j'aimerais revenir sur le point où Mélenchon est bien un défenseur de la politique de Mitterrand. C'est que récemment, il a été interviewé sur YouTube et il a bien dit « Ah non, c'est pas un tournant de la rigueur, c'est qu'on a été mis par les capitalistes au pied du bout et que fallait faire une politique en leur faveur. »
Je voulais poser une question qui n'est pas une question polémique. Je voulais juste savoir s'il y avait un second tour avec Mélenchon, quelle serait la position de Lutte ouvrière si c'est comme en 80 avec Mitterrand. Voilà, c'est une époque.
Je vais commencer par la dernière question.
Ce qui a un peu à voir avec le raisonnement du camarade Manu de la LTF. Donc le second tour. Bah, en fait, je vais pas dire à l'avance une position. On n'y est pas. Il y a des situations où on a fait des choix. Le camarade évoquait 1981 où Arlette avait appelé à voter Mitterrand au second tour dans une période où voilà, les travailleurs en avaient marre d'avoir la droite au pouvoir, avaient des espoirs dans Mitterrand, ils en avaient marre et puis voilà, bon, ils voulaient faire... Beaucoup de gens dans les classes populaires voulaient ça, donc on a dit ce qu'on pensait de Mitterrand jusqu'au bout, mais on a fait le geste sans illusion, sans taire ce qu'on pensait de Mitterrand. C'est vrai que Arlette a appelé à voter pour Mitterrand au second tour. Quelle sera la situation au deuxième tour, dans un an? Aujourd'hui, on voit bien, effectivement, il n'y a pas photo entre les idées nauséabondes de l'extrême droite qui monte, tout ce qu'il y a de voilà, et ce que LFI, voilà. Mais c'est difficile de faire un raisonnement à l'avance parce que, d'abord, quelle va être la situation pendant un an? On est quand même révolutionnaire. Qu'est-ce qui va se passer? La crise, la guerre, Mélenchon, il va dire quoi? S'il y a demain une mobilisation urgente des troupes, qu'est-ce qu'il va faire, Mélenchon? Et puis, les mobilisations des travailleurs. On ne peut pas quand même mettre de côté l'idée que les travailleurs, à un moment donné, ils ne surgissent pas sur la scène des luttes, sur la scène politique. Et là, ce serait une autre situation. Et puis, voilà, pour finir de réponse à ça, c'est de répondre à ça. La seule chose, en fait, qui est vraiment intéressante pour défendre des idées et faire avancer la conscience de classe, ce n'est pas le second tour. C'est le premier. Le second tour, il est fait pour ça. Il est fait pour nous forcer les classes populaires à voter finalement en majorité pour celui qui va les attaquer pendant 5 ans. Donc c'est un piège, encore plus que l'élection en général. Donc, le premier tour, c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui, il faut discuter. Et du coup, le problème posé par le camarade de la LTF sur « Ouais, mais quand même, LFI, c'est la seule solution, donc peut-être qu'on pourrait attendre quelque chose d'eux, leur demander pour faire avancer un peu la situation, que ce soit moins pire comme vote », ben ça, c'est raisonner, en fait, pour le second tour. C'est raisonner par rapport au second tour, à la situation à ce moment-là. Et c'est aussi minorer le fait qu'on est petit. On est peu implanté. Toutes les organisations d'extrême gauche réunies, j'ai envie de dire, elles sont là, quasiment. C'est-à-dire que même peut-être pas dans le monde, on ne va pas exagérer, en Europe peut-être, il est là, le milieu, les gens qui sont qui ont une conscience de classe, qui défendent les idées, à qui ça parle, qui sympathisent avec les idées communistes, je pense qu'ils sont plutôt ici. Ça fait 20 000, peut-être, 20 000 entrées sur combien de dizaines de millions de travailleurs? Combien de centaines de millions dans l'Europe? Et quels scores, les scores électoraux, ils reflètent ça aussi, voilà, et 1%, 0,5%. Donc non, donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est se battre pour exprimer des idées claires, communistes, révolutionnaires. On a des divergences qui ne sont pas négligeables, on aurait du mal à le faire ensemble maintenant, parce que vous voyez quand même, si on avait fait ce genre de choses, de campagne commune à l'extrême-gauche en 2022, 2022, il s'est passé quoi en février 2022? Il y a la guerre en Ukraine. Les uns ont dit, d'abord, il faut envoyer des troupes et plus d'armes à l'armée ukrainienne. Ils étaient du côté de l'armée ukrainienne, une partie de l'extrême-gauche. Nous, on n'était pas d'accord avec ça. On a dénoncé notre impérialisme, on a dénoncé le rôle des États-Unis et de la France dans cette guerre contre la Russie. Voilà. Donc on a fait un choix complètement différent. Donc, quelle campagne on aurait fait à l'époque? En défendant une chose et le contraire? Voilà. Donc, on n'envisage pas ça. Et en plus, effectivement, à cause des scores, comme l'a dit le camarade, et de notre taille, ça ne permettrait pas... Puis c'est une élection générale, c'est une élection présidentielle. Les élections locales, des fois, on a pu faire des accords pour obtenir quelque chose en commun, qui soit un plus pour les travailleurs. Voilà. Et enfin, le grand patronat et l'oligarchie, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Donc, le Mélenchon, ce qu'il dit, c'est oui, j'ai bien entendu, il y a les travailleurs, il y a ceux qui possèdent les et puis il y a ceux qui possèdent les grandes entreprises, la bourgeoisie, la grande bourgeoisie, voilà, Bernard Arnault, Bolloré, Dassault, etc., les actionnaires, etc. Il sait ça et il dit moi, je passe à autre chose. Il ne dit pas que c'est contradictoire, mais ça l'est. Il dit, moi, je passe au peuple contre l'oligarchie. Et l'oligarchie, bah, il laisse le flou. Voilà. Et le peuple aussi. C'est quoi le peuple? Les ouvriers, les commerçants, les patrons, ça s'arrête où? Qu'est-ce qu'on veut dire? Voilà. Donc c'est ça. C'est une expression un peu floue pour se montrer radical, se montrer, entre guillemets, anticapitaliste, mais sans se mettre en porte-à-faux vis-à-vis du patronat.
Moi, c'est pas une question, c'est juste pour répondre à monsieur de tout à l'heure. Déjà, RP, par exemple, bah, eux, ils sont plus anarchistes que nous. Il y a une grande différence. Par exemple, eux, ils pensent que maintenant, on peut détruire le capitalisme, mais c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que LO est là, pour permettre de déconstruire. Et on sait très bien que ça se fera pas maintenant, peut-être même pas dans nos villes, mais que ça se fera à un autre moment. Il y a une différence énorme entre RP et nous, et qu'on peut pas ignorer, on peut pas faire une alliance avec d'autres personnes qui pensent complètement différent de nous, et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Donc, c'est très intéressant ce que vous avez dit par rapport à, du coup, Mélenchon et son discours, qui essaie de diluer un peu les différentes classes sociales à travers son discours sur le peuple, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas la seule personne à faire ça aujourd'hui. La plupart des politiciens, voire même tous les politiciens, ont toujours menti et utilisé des termes où ont employé la démagogie, pour ramener les gens, c'est le principe politique premier pour essayer de faire des votes. Et donc ma question, c'est pourquoi Mélenchon serait une mauvaise idée, sachant que actuellement, même si Mélenchon n'est pas la personne que je porte le plus dans mon cœur politiquement à l'heure actuelle, je pense, bien que je sois de gauche, pourquoi lui, alors que même si personnellement Mélenchon ne représente pas mon idéal de la gauche, du socialisme ou du communisme à lequel il faut passer pour arriver à un état socialiste. Sauf que aujourd'hui, c'est la seule personne qui a assez de charisme pour rassembler un certain nombre de gens pour pouvoir passer au second tour. Je suis d'accord avec le fait que la révolution est censée se faire au premier tour. Et avant le premier tour, la révolution ne se fait pas par des paroles, mais par des actes. C'est très bien, sauf qu'aujourd'hui, on est dans un état où on a très peu de moyens de s'exprimer par rapport à tout ce qui se passe, la mondialisation, les réseaux, on est atomisé complètement à l'échelle du travail, à l'échelle sociale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut s'exprimer que par les votes, à travers quelqu'un de charismatique, et après, par les élections législatives. Donc je pense que, personnellement, Mélenchon est une meilleure option, bien qu'elle ne soit pas l'option idéale, mais plutôt l'option par défaut, et j'aimerais savoir ce que votre parti propose de différent, que ce soit au premier tour ou au second tour, ou même après l'élection, par rapport au parti LFI. Je suis curieux.
À l'écoute de ce que j'ai entendu par l'intervenant et les différents partis politiques radicaux, on voit bien qu'il y a des antagonismes un peu partout. Donc, ça fait partie de l'être humain et de l'altérité. Alors, dans un contexte comme ça, où on ne peut pas se soustraire de cette réalité, je vais faire l'avocat du diable. Mélenchon, certes, on le connaît d'un point de vue politique, certes, il a appartenu à une gauche qu'on appelle libérale, il a fondé un autre parti, il a été accompagné par les communistes, pas pour des raisons électoralistes forcément, il y avait une base quand même de personnes qui voulaient une autre politique à visage plus socialiste, plus communiste, dirait-on. Ça n'a pas marché, il a fait sa tambouille, la deuxième, etc. On peut lui reprocher plein de choses. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, en tant que citoyenne en France, si un parti politique m'offre plus de moyens dans les services publics qu'on a sabotés depuis 20, 25 ans, 40 ans, si un parti politique ne voit pas les relations humaines sous le prisme de l'immigré, de l'étranger, de l'homme à abattre, si un parti politique parle de façon internationale de ce qui est juste ou injuste, de ce qui est acceptable ou pas acceptable en termes, dans un temps de guerre génocidaire. D'accord ? Eh bien, moi, je suis déjà contente de ça. Je suis déjà contente de ça. Je me dis que ça sera une entrée dans la matière pour changer les choses, pour redonner espoir au peuple français du moins, et aussi d'un point de vue international, raviver cette espèce d'espoir qu'un socialisme est possible, qu'un socialisme même dilué est possible, et moi j'en serais déjà heureuse.
Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose que s'exprimer par le moyen du vote et qu'est-ce qu'on propose par rapport au premier, au deuxième tour? Ben effectivement, moi je suis pas d'accord. Je pense pas qu'on peut s'exprimer qu'au moyen du vote. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui font tourner les boîtes, qui font tourner la société. Nous, ce qu'on fait qu'on essaye de faire, c'est qu'ils s'organisent sur le lieu de travail, dans les quartiers populaires, etc. Il faut faire renaître un camp ouvrier, la conscience d'une classe travailleuse. Les urnes, quelque part, le vote, ça permet de diffuser des idées, de se regrouper, de renforcer quelque chose, mais... si on pense que c'est par le vote que ça va se passer et que ça y est, on est atomisé, on est brisé, on est isolé, dans ce cas-là, c'est mort, parce que le vote, toute l'histoire du XXe siècle et du XXIe siècle jusque-là le montre, ça ne marche pas. Et c'est de pire en pire. Et là, je passe en partie à la deuxième question. Je partage que oui, ce que dit Mélenchon, c'est infiniment plus humain, que tout ce qu'on entend par ailleurs sur Gaza, sur un tas de choses, sur la situation des travailleurs, sur beaucoup de sujets. Oui, ça dénote par rapport aux idées réac, par rapport à tous ceux qui méprisent les pauvres. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Bon, et ben nous, on veut avoir des idées du côté des exploités et des opprimés, mais vraiment le faire, vraiment réussir à changer cette société, vraiment. Et ceux qui peuvent le changer, c'est pas nous dans une campagne électorale, je ne pense pas, c'est les travailleurs eux-mêmes. Et là-dessus, ce sera pas l'être humain, l'altérité, les citoyens, le peuple, il y a un camp à choisir. On est dans une société où c'est de plus en plus dur, et on en demande de plus en plus aux travailleurs. Et Mélenchon au pouvoir, même dès maintenant, vous voyez, on parle du Moyen-Orient, mais Mélenchon, il assume l'impérialisme au Moyen-Orient. Juste, il propose de le faire différemment. Donc, moi, je ne peux pas cautionner ça. Par contre, oui, les belles paroles, ça, il y en a marre. L'espoir, les faux espoirs, moi, j'ai envie de dire, il y en a vraiment ras-le-bol. Et c'est ça qui tue. Je vais aller plus loin. Comment se fait-il qu'au Moyen-Orient, il y a eu plein de révoltés, en tout cas récemment encore, et qu'il n'y a pas de parti autre qui fasse des choses que les islamistes et nationalistes de tout poil? Parce que le mouvement socialiste et communiste, le drapeau, il a jeté à la poubelle. C'est pour ça qu'on en est là. C'est parce que c'était des faux espoirs aussi. Bon, et ici, on a intérêt à ne pas se planter, à être à la hauteur, et ça... Ça veut dire qu'il faut défendre des idées. On a besoin d'idées, d'une conscience de classe, d'une organisation sur une base qui ne soit pas l'humain, qui soit le camp des ouvriers, même si ça ne plaît pas, même si on est minoritaire maintenant. Mais je vous assure, ça peut changer très vite. En quelques années, des révolutions, ce n'est pas prévisible. Et d'ailleurs, ces dernières années, regardez, quelque part, il n'y a jamais eu autant de révoltes. On est rentré dans une situation de guerre, de barbarie dans de plus en plus d'endroits, mais aussi potentiellement des révoltes. Mais ce qui manque, c'est un camp ouvrier. Ça, il n'y a pas pour l'instant. Voilà, il n'y a pas. C'est éteint pour l'instant. Donc maintenant, nous, notre rôle, c'est de reconstruire ça. Voilà. Et les élections, c'est une occasion importante pour aider à reconstruire cette conscience, le camp des travailleurs. Et à mon avis, ce qui sera utile, c'est pas là maintenant. Arrêtons de raisonner par rapport au second tour. Arrêtons de rentrer dans ce piège. Raisonnons en disant, voilà, qu'est-ce qui, quelles idées on veut défendre vraiment. Et là, bah, voter communiste révolutionnaire, avec une, défendre toutes nos idées nécessaires pour la période, c'est ça qui sera utile. C'est ça qui sera utile aux travailleurs.
Et moi, je voudrais ajouter, avant de, peut-être on pourra reprendre, à plusieurs camarades, en fait, moi j'entends, finalement, ils veulent le moins pire. Un autre camarade, il redoute la victoire du RN. Et il cherche, il espère que Mélenchon, ce sera un barrage à ça. La camarade, elle a parlé d'avancées sociales, etc. Vous savez, les camarades, si Mélenchon y arrivait au pouvoir, c'est possible qu'il arrive au pouvoir, dans le contexte actuel, en dehors d'une mobilisation massive des travailleurs sur un terrain social. Mélenchon, ce sera peut-être celui qui va militariser le pays. C'est peut-être celui qui va mobiliser des dizaines, des millions de jeunes pour les envoyer au front. Parce que c'est, il arrive quand Mélenchon, il dit sur TF1, quand il se présente, on est dans une période d'une guerre qui est en train de se généraliser. Mais pensons comment on les arrête, les guerres. On les arrête avec des... C'est du bidon. Quand en plus on est un soutien des Dassault et compagnie, c'est du bidon. Donc les camarades, c'est quoi notre travail? C'est de rajouter une couche d'illusion ou c'est au contraire d'offrir une autre perspective? Bien sûr qu'on est inquiet, tout le monde est inquiet de l'évolution de la société. Mais y compris dans le passé, quand les idées d'extrême droite, dans les années 30, là on va fêter le 90e anniversaire de juin 36, c'est pas le Front Populaire qui a arrêté, qui a ralenti les idées d'extrême droite. C'est d'abord une mobilisation massive dans la rue, puis ensuite une grève générale, etc. Et ça, les Mélenchons, leur boulot, ce sera de l'arrêter. Ce ne sera pas de s'appuyer dessus. Bon, alors, par ailleurs, c'est une mobilisation qui est électorale aujourd'hui. Là, c'est la machine à illusion, comme a détaillé le camarade. Alors, notre boulot, là-dessus, c'est quoi? C'est d'entretenir ça? C'est de faire croire qu'une candidature unique de l'extrême gauche, ça enrayerait ça? Mais vous rigolez! Là, dans la salle ici, moi, j'entends déjà une partie des gens qui vont aller voter Mélenchon dès le premier tour, pas pour une candidature d'extrême gauche, parce que si vous restez sur ce terrain d'espérer le moins pire, d'acheter le bon ticket du loto, etc., parce que c'est un peu ça qu'il y a. Bon, ben c'est, on ne veut pas entretenir ça.
Moi maintenant, actuellement, moi je suis une femme, je suis une fille d'immigrée, avec bientôt une double nationalité algérienne. Ma vie ici en France, elle est menacée si l'extrême droite passe. Elle est menacée ici maintenant, c'est-à-dire que peut-être que dans 2 ans, je ne pourrai pas avoir accès à certains emplois de par ma nationalité. Mon droit à l'avortement pourrait être menacé, c'est clairement ce qui se passe dans les pays où la candidature d'extrême droite passe. Donc oui, ok, c'est bien beau de dire oui, peut-être va y avoir une révolution, va y avoir... Non mais d'accord, mais moi j'ai besoin de trucs concrets, de me dire dans 3 ans, est-ce que je peux m'imaginer encore en France? Est-ce que je peux m'imaginer sereine en France? Bah non, voilà. Donc oui, Mélenchon, il n'est clairement pas parfait, je ne suis clairement pas pour ce type, mais au moins, je me dis, s'il passe, je peux vivre dans ce pays. Je peux au moins vivre sereinement dans ce pays. Donc oui, il ne faut pas, penser pour l'instant au second tour, mais on sait tous ici, il ne faut pas se verser d'illusion, que l'extrême droite va passer au second tour. Voilà, l'extrême droite va passer au second tour. Donc maintenant, est-ce que... Désolée, hein, j'ai rien contre vous, mais est-ce que votre parti de l'ouvrière va pouvoir faire barrage à l'extrême droite? Non. Pardon, mais non.
Donc, qu'est-ce que... Oui, donc tu dis, là, ne faisons pas d'illusions, le RN va gagner au deuxième tour... Du coup, il va passer au deuxième tour, pardon. Bon, ok, voilà. Donc, finalement, c'est quoi la conséquence de ce que tu dis? C'est là, dans l'urgence, face à la situation grave qui a commencé déjà et qui continuera, qui s'aggravera avec Bardella. Oui, le RN au pouvoir, ça va pas s'arranger, bien sûr, et ça va donner. Toute liberté à tout un tas aussi d'identitaires, de gros, de fachos, etc., bien sûr, de nervis. Oui. Et qu'est-ce qu'on va faire contre ça? Comment on se prépare à affronter ça? D'une part. D'autre part, imaginons Mélenchon gagne. Que vont faire tous ces fachos? Que vont faire tous ceux dans l'appareil d'État, dans la police, dans l'armée, qui votent RN, Zemmour, je ne sais pas quoi, ou qui sont déjà en lien avec des groupes identitaires? Tout ce milieu qui haït Mélenchon et qui sont prêts, certains peut-être à la limite, de faire le coup de poing. Que vont-ils faire si Mélenchon y passe? Voire même s'il est au second tour avec de chances sérieuses de réussir. Comment on se prépare face à ça? Moi, c'est le problème que je pose. Donc, moi, je n'ai pas de solution miracle. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on peut avoir de solution miracle sans que les travailleurs, les gens eux-mêmes, ils se mettent en action, qu'il y ait des mobilisations. Je peux pas, effectivement, on ne peut pas l'inventer, ça ne se crée pas. Mais je ne crois pas qu'un papier dans l'urne va permettre de se battre contre des fachos. Comme j'ai déjà dit, le second tour, on n'y est pas. Donc là, moi, je ne discute pas du second tour. Voilà, je ne discute pas du second tour. Maintenant, comment, parce que ton raisonnement, il conduit à se mettre dès maintenant derrière LFI. C'est-à-dire l'illusion que ça changera par les urnes. Si on fait ça, dès maintenant, on se tire une grave balle dans le pied. Parce que jamais le fascisme, non, c'est même pas le fascisme encore, jamais l'extrême droite, elle va reculer comme ça. C'est pas parce qu'on va faire des combinaisons d'un côté, de l'autre, on va changer notre vote à la dernière minute ou avant, que ça va faire reculer ces idées-là. Qu'est-ce qui peut faire reculer ces idées-là? Qu'est-ce qui peut faire et qu'est-ce qui peut aussi faire reculer ceux qui voudraient faire un coup de poing contre les immigrés, contre les femmes, contre les syndicalistes, contre les piquets de grève? Qu'est-ce qui peut les faire reculer? Et qu'est-ce qui peut faire reculer ces idées en général? Pour que aussi, ça change aussi par tous les thermomètres comme les élections, bien sûr. Qu'est-ce qui peut faire reculer? C'est une conscience de classe, une conscience que les travailleurs, quelle que soit l'origine, quel que soit le sexe, nous avons des intérêts communs. Voilà. Et donc ça, moi je pense qu'il faut le faire dès maintenant. Il faut le faire dès maintenant. Si on abandonne, il n'y aura pas de solution.